Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Radio Foot International. Ça file sur la planète foot aussi vite qu'un jeudi ensoleillé à Paris. Tiens, c'est le printemps aujourd'hui. Un temps à niaiser, mais nous, on n'a toujours pas le temps. Eux ont eu le temps. Ils l'ont pris un temps, mais pas trop longtemps. Thomas Tuchel, vendredi, à la tête de l'Angleterre. Rudy Garcia, ce jeudi, avec la Belgique. Soir de première pour deux entraîneurs devenus sélectionneurs de sélection pour le moins attendu, comme eux dans ses nouvelles fonctions d'ailleurs. Entraîneur devenu sélectionneur, on leur souhaite le meilleur. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Ceci dit, sera venu le temps de l'Afrique.
Cornette Maurice, que tout le monde vienne. Allons saluer les poules mouillées.
I like to move it
pour Madagascar, évidemment. Madagascar à l'honneur, bien sûr, la grande île. Une série de dessins animés cultes et une équipe de foot qui peut, eh oui, continuer à rêver d'un mondial, d'une coupe du monde, qui le crut. Les Baréas, leaders du groupe I, ce jeudi, au moment où l'on se parle, quelle folie. En attendant, Ghana, Tchad et Comore, Mali, bien sûr, on ne s'emballe pas. Eric Rabé, Sandra Tana. C'est sorcellerie tout ça.
Presque, il y en a pas. Enfin, il y en a un peu quand même à Madagascar, mais pas trop. Mais il y a surtout des bons joueurs et on se rend compte qu'on peut faire des belles choses au football.
Et c'est tellement réjouissant. Longue page Afrique donc dans ce Radio Foot, bien sûr. Les matchs d'hier, Mada qui rêve, le Cameroun qui s'inquiète. Ceux de demain avec le retour sur le pré, parmi d'autres, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de la RDC. Franck Simon, c'est un peu votre semaine totale régalade, non ?
Oui, on est vraiment entré dans une belle semaine. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour Franck, on est ravis de vous accueillir. Pour finir, si on a le temps, y a-t-il des abonnés au bouquet que vous avez demandé ? Nous essaierons de comprendre pourquoi il est plus compliqué en France de voir un match de Ligue 1 qu'une rencontre, par exemple, de qualification à la Coupe du Monde de la Zone Afrique. Pourquoi diffuseur après diffuseur, cet échec après échec d'Azone aux abois au point de faire gagner ses abonnements dans une chaîne de restauration rapide ou dans la grande distribution ? Oui, on en est là. La Ligue Pro française aux abois au point de ne pas avoir de plan B fiable. Misère, misère. Allez, Laurent Salerno a supervisé Mathieu De Gueldre. On en est là aussi, qui va manipuler l'émission. Salut Diouf, à cogiter. Il n'y a plus qu'à foncer.
Vous toujours posez la question. Il a trouvé. Maintenant, on joue une match. Et les mêmes, et les premières questions, hein. Oh, le 4-4-2.
Quand on vous dit que la musique est en train de prendre le pouvoir sur RFI 1, et ça n'est pas fini, Thomas Tuchel et l'Angleterre. Moi, il me manque son accent à Thomas Tuchel. Cet accent, cette façon qu'il a de parler
c'est
français,
vrai,
cet
bien,
accent.
Un peu de douceur.
Je crois qu'on a tous un bon souvenir de Thomas Tuchel, non, globalement ?
Pas mauvais.
Pas mauvais, ouais, pas mauvais. Je me sens plus dubitatif.
Moi, j'aimais bien, bah, c'était un entraîneur qui disait ce qu'il pensait.
Bah ouais.
Et on sentait qu'il pensait ce qu'il disait aussi. C'est pas toujours le cas de tous les coachs, et lui, je trouvais que c'était le cas. Et il faut dire qu'il a plutôt bien réussi jusqu'à ce que ça déraille un petit peu. Mais qui n'a pas déraillé au PSG ?
Mais bien sûr.
J'avoue.
Que... Vous savez ce que c'est ?
Non, mais j'avoue qu'il n'était peut-être pas dans les meilleures conditions pour travailler, mais il a quand même fait du très bon boulot dans ces conditions.
Thomas Tuchel et l'Angleterre première, donc ce vendredi, début pour lui et les siens de la course. Alors eux, c'est la course à la Coupe du Monde 2026. Bing, ils sont les premiers quasiment à entrer dans cette course face à l'Albanie puis la Lettonie. Pas du foudre de guerre donc, et donc d'affiches incontournables, mais une première qui va être scrutée du côté de la perfide Albion. Tuchel, un Allemand à la tête des Three Lions, les Trois Lions.
Ouais.
Ça fait jaser outre-Manche. Étonnant ce choix ou pas, messieurs ?
Pas vraiment, parce que quand on regarde la composition des bancs des clubs de Première Ligue, la grande majorité est entraînée par des techniciens étrangers. Ensuite, il faut se rappeler que entre 2006 et 2016, je crois, dans cette décennie-là, il y a eu Eriksson, puis Capello, je ne sais plus sur les années...
Oui, oui, mais dans ces années, effectivement, Sven Goran Eriksson, Fabio Capello...
En gros, dans cette décennie, c'était uniquement des sélectionneurs étrangers. C'est les deux premiers, mais ils ont mis un peu le pied dans la porte et la porte s'est bien entrouverte. Donc, que l'Angleterre prenne Tuchel quand Southgate quitte son poste, ça me paraît pas... C'est une opportunité de marché aussi à ce moment-là, ils la saisissent. Pourquoi pas?
Non mais... C'est vrai qu'on a envie de leur dire, mais en même temps, aux Anglais qui sont pas contents, mais vous voyez qui est à la place? Quel technicien anglais aujourd'hui?
Qui a envie de venir, ouais, t'as bien raison. Non mais après, ils ont essayé l'anglais.
Qui a le niveau?
Ils ont vu Tuchel en Angleterre aussi, entraîneur de club. Donc c'est peut-être pour ça aussi que bah, ça donne une opportunité pour lui, plus facile d'arriver à la tête de la sélection. Mais moi, je reste persuadé que c'est un bon technicien. Après, il a du boulot parce que ça va être dur de gérer cette
équipe. On va en parler, bien sûr. Franck. Tourelle, sélectionneur, parce que c'est ça aussi, hein. C'est, on va parler de Rudy Garcia, vous l'avez compris, on a des gars qui ont fait 15-20 ans de carrière en club, qui n'ont jamais pris une sélection, ça n'est pas tout à fait a priori le même métier,
même
on
boulot,
va vous demander votre avis aussi, à vous, l'ancien joueur, qui a été un temps sélectionneur.
Ouais, il est bon que vous l'évoquiez, parce que c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout au métier d'entraîneur au jour le jour, de gestionnaire.
On connaît des entraîneurs qui ne veulent, qui disent clairement, moi je veux pas être sélectionneur, j'ai besoin d'un contact quotidien avec mes joueurs et mon équipe, ce qu'on n'a pas quand on est sélectionneur.
Bien souvent ils bottent en touche alors que leurs agents leur disent, bah voilà, il y a des possibilités, tu peux aller là, tu peux aller là. Non. Moi je veux, ce que je veux, c'est être en club pour justement avoir ressentir cette adrénaline, être au terrain tous les jours, matin et après-midi. Et du coup, c'est vrai que pour Tuchel, c'est un changement de fonction, c'est un élargissement aussi de fonction, parce que t'es le coach de toute l'Angleterre, t'es le coach de tous les clubs, de tous les joueurs, où qu'ils soient, et même des Anglais à l'extérieur. Donc, c'est un apprentissage. Il est arrivé il y a quand même quelques temps déjà. Donc, il a un plan.
Oui, c'est son premier match, mais il est là depuis quelques semaines. Puis, il a été nommé il y a quelques mois.
Premier match, ils ont deux matchs, et franchement...
Ça va, ils commencent pas par les
Albanie et Lettonie.
Albanie et Lettonie. Je vous propose qu'on l'écoute, tiens, Thomas Tuchel, après tout, et puis on continue à parler de lui et de son expérience juste après.
Nous voulons mettre en place un jeu collectif où tout le monde se sent en confiance pour s'exprimer et donner le meilleur de lui-même. J'espère que les joueurs voient ce que je vois tous les jours à l'entraînement et pourront le transformer dans le stade. Car ce que j'ai vu ces derniers jours est impressionnant. C'est juste une joie de regarder et de participer à cette aventure. J'espère que nous pourrons transposer cette énergie et cette faim pendant le match. En plus, nous jouerons dans un Wembley à guichet fermé. Cela sera magnifique.
Et vous aurez reconnu pour doubler Thomas Tuchel, Sofia Damasian, je le cite parce qu'il sera aux commandes de Mondial Sport samedi.
Il s'est tout fait, ce dimanche. Ah,
une présence lilloise dans Radio Foot grâce à Sofiane.
Il remplace Annie et ou Olivier
Orchestre
dans Radio Foot.
Sofiane.
Et il sait faire Mondial Sport. Eh ben, on l'embrasse bien, bien fort. Il est pas très loin d'ici. Ce sera lui, donc.
On peut presque aller l'embrasser pendant l'émission. Tellement
presque,
il est prêt.
Ouais, mais je préfère vous garder.
Mais je l'ai fait avant, en fait.
Je vous garde d'abord.
Ouais, d'accord.
Revenons à Thomas Tuchel, que l'on vient d'entendre. 51 ans, 15 à la tête de clubs tels que Mayence, Dortmund, le PSG, on l'a dit, Chelsea ou le Bayern. Une Ligue des champions, oui, mesdames, messieurs, oui. Trois titres de champion, France et Allemagne, et quelques coupes. Bon, voilà, le CV, il est là, on le sait.
Et un mondial des clubs.
Non, mais il a le CV, je reste persuadé que dans la méthode de travail, c'est quand même très bon. C'est un passionné. C'est pas du tout pareil, le boulot de sélectionneur. Vraiment,
ah ben oui.
Parce que, on le disait, c'est pas au quotidien, c'est préparer les joueurs, les récupérer trois jours avant un match. Tu sais pas dans quel état ils sont. Déjà psychologique, physique, t'as pas le temps de les faire travailler parce que trois jours c'est pas suffisant pour faire travailler une équipe. Donc il faut vraiment avoir une sélection sur la longueur et pas sur quelques matchs où ça va te permettre de. Donc là, quand t'as le temps de travailler et mettre en place des choses, là c'est quand même plus facile de d'avoir des résultats. Donc c'est ce qu'on va attendre de lui, surtout parce que l'Angleterre, on attend vraiment des résultats.
Il a déjà mis les pieds dans le plat. Il a déjà dégainé en direction de son prédécesseur. Il fait venir ou revenir certains, il écarte d'autres, mais pour des raisons justifiées. Clairement, il est en train de mettre sa patte. Tu as raison de dire qu'il n'a pas le temps, mais en vérité, comme il a eu ces quelques mois pour préparer, finalement, chaque jour était important.
Ouais, ouais.
Avec tous les clubs engagés, hein, entre la Première Ligue, les clubs engagés dans les compétitions européennes, tu te sers de tout ça, c'est du contenu.
Des joueurs anglais en méforme, beaucoup. Ouais. Hein, on voit aussi. À City, à United.
Juste pour revenir sur le... Je pense que l'émotion est plus forte quand tu es sélectionneur que quand tu es entraîneur de club, parce que finalement, tu mets sur le temps, et du coup, Bah, les émotions, elles sont un peu étalées aussi sur ce que tu vas faire sur une saison. Et tandis que là, c'est vachement plus intense parce que t'as le résultat est tellement attendu par toute une nation et par tous les supporters de l'équipe. Donc tu te dis quand même que dans l'intensité, c'est quand même beaucoup plus fort. Donc lui, il va découvrir ce métier, mais je pense que peut-être aussi parce qu'il y a des entraîneurs qui ont envie aussi de changer un peu de formule. C'est-à-dire que quand t'as géré un club et peut-être que un peu plus de légèreté dans le travail de tous les jours, avec un peu plus d'intensité dans la victoire et dans le profit de tout ça.
Mine de rien, il a quand même la pression, puisque Southgate, avec toutes ses insuffisances, d'ailleurs qu'il a bien relevées, comme le dit Franck, est allé en demi-finale de Coupe du Monde en 2018 et a fait deux finales d'Euro de suite.
Deux finales d'Euro, oui, perdues malheureusement, 2021-2024.
Depuis 1966, l'Angleterre n'avait jamais été aussi proche de gagner un titre.
Bientôt 60 ans que l'Angleterre, c'est ce que je dis, j'avais écrit, souvent placée, jamais gagnante. Des demi-finales et des finales à la pelle, mais quasiment rien dans la musette, pas un trophée depuis presque 60 ans.
On l'attendait bien avant.
C'est une équipe qui tourne autour. Est-ce que Tuchel, avec son regard neuf, avec ses idées aussi différentes et peut-être, je pense, un goût du risque un peu plus prononcé que celui de Southgate,
c'est un euphémisme, hein.
Je suis assez prudent parce qu'il n'a pas encore fait de match, mais je pense que plus d'innovation et de coups de poker dans la gestion du groupe qu'avec Southgate, qui était très conservateur, qui était un peu le Deschamps anglais.
Sans les titres.
Moi, je pense, sans les titres. Je pense qu'on peut attendre du bien de Tuchel à la tête de l'Angleterre, mais on en saura plus prochainement. Il est quand même, sur ce premier rassemblement, privé de pas mal de joueurs, notamment sur les côtés. Derrière, il a été obligé d'innover. Les problèmes défensifs de l'Angleterre doivent être réglés aussi, parce qu'il y a eu des flottements à ce niveau-là.
À part Harry Kane qui brille au Bayern, Bellingham, enfin... En Dancy, au Real.
Mais ça reste un joueur exceptionnel.
Ça reste un joueur exceptionnel quand il est en forme, ce qui n'est
c'est
pas toujours le cas cette saison.
Il n'y a pas grand monde qui brille en ce moment.
La saison dernière.
Pour revenir sur les problèmes défensifs, tu vas voir où je vais en venir, Pat, mais Pickford est là, gardien d'Everton. Everton va mieux depuis deux mois. Il a retrouvé aussi de la sérénité, il est un peu plus solide.
Lui qui commettait des beaux gardiens,
je fais un focus sur lui parce que il est là. C'était pas sa meilleure saison la saison dernière, et pourtant, on sait qu'en équipe nationale, il surperforme. Et c'est vrai qu'en défense, quand tu regardes, il y a le retour de Walker, qui a quitté la perfide Albion pour aller en Italie, se cacher. Est-ce qu'il sera bon là pour ce retour ? C'est pas sûr. Hein.
Bon, en tout cas pour l'Angleterre, demain donc face à l'Albanie ce vendredi et ensuite ce sera la Lettonie. Autre première, cette fois c'est ce soir, pour certains qui nous écoutent c'est même en ce moment, Rudy Garcia et la Belgique donc, cette fois c'est un barrage pour rester dans la Ligue des Nations niveau A. C'est face à l'Ukraine qui reçoit les Diables du côté de Murcie en Espagne. Là encore, premier pas de Garcia comme sélectionneur. Et pas avec une petite sélection, même si on va en parler. On parle d'abord de Garcia. La Belgique est clairement aux abois. Garcia, d'abord, on en pense quoi en tant que sélectionneur ? Lui, c'est quand même 25 ans de club, quasiment. Hein. Ouais. Il a 61 ans. En France, Saint-Etienne, Dijon, Lille, Marseille, Lyon, en Italie, la Roma, bien sûr. Très bien, deux fois vice-champion, et Naples nettement
un
moins
peu
bien.
En Arabie Saoudite
aussi, où il a accueilli Cristiano Ronaldo, on s'en souvient, El Nasser. Une finale de Ligue Europa, une demi de Ligue des Champions quand même avec Lyon, c'était au moment du Covid. Champion de Ligue 1 et Coupe de France avec Lille. Voilà pour le pédigré de Rudy Garcia.
C'est quand même une grosse expérience.
Il a balayé vraiment tous les.
Mais je pense qu'il est, c'est quand même un entraîneur d'expérience. Après une sélection, et d'autant plus celle de Belgique. Attention où tu mets les pieds, parce que entre les égos, les problèmes personnels, la gestion football, la gestion de l'après finalement de cette génération qui ne s'est jamais remise sur laquelle on comptait
de
énormément.
De son somme de 2018 après la défaite en demi-finale de Coupe du Monde face aux Bleus, cette génération s'est perdue derrière. Il en reste quelques-uns quand même.
Ouais, c'est un gros challenge. Il en reste, mais on arrive au bout quand même. Donc c'est un gros challenge de relancer et de trouver la suite pour
une première sélection.
Il a soigné sa communication.
Il sait très bien faire parce que moi, Rudy Garcia, je suis un peu partagé à son sujet. Je trouve que jeune, Lors de ses débuts, c'était un entraîneur vraiment enthousiasmant, qui faisait bien jouer ses équipes, qui donnait une identité de jeu très forte.
Qui prenait des risques, même avec Dijon.
Avec Dijon, mais le Mans en particulier, ensuite Lille. Et après, je trouve qu'il s'est quand il a eu accès à des bancs de très gros clubs, il est un peu devenu un manager très politique, qui était plus dans la communication, voire la langue de bois, que dans l'amour du football.
Il s'est peut-être un peu perdu, oui.
Alors là, la Belgique, ça va bien avec ça. Il faut être avoir un bon sens politique pour gérer ce vestiaire. La chance qu'il a, je trouve, c'est que la Belgique, d'une part, s'est complètement fourvoyée sous son prédécesseur. Donc je pense qu'il peut relativement facilement remettre l'équipe à son vrai niveau. Et deuxièmement, c'est une équipe qui est beaucoup plus francophone qu'elle n'était il y a 20 ou 30 ans, la Belgique. Il y a beaucoup plus de joueurs francophones, il y a moins de joueurs néerlandophones. Oui. Et donc, pour un technicien comme lui, c'est un atout, à mon avis. Et je demande à voir, j'attends de voir.
Une victoire sur les 7 derniers matchs face à Israël.
Bilan famélique.
Septembre dernier, 5 défaites et 1 nul depuis. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'équipe de France 2 fois, il y a eu l'Italie, les clients, mais quand même, c'est beaucoup trop. Rien ne va plus, je le disais, pour cette génération qui...
Rien ne va plus, mais
enfin,
ils sont de retour.
Mais qui ne s'est jamais remis encore une fois de cette demi-finale.
Ils sont de retour. Thibaut Courtois, il s'est exprimé.
Alors Thibaut Courtois est de retour, c'est peut-être le premier point positif de Garcia. C'est lui qui l'a convaincu de revenir.
Ouais. C'est quand même très important. C'est le premier acte posé quasiment et capital.
Ça a provoqué une crise puisque Castells, qui avait été le gardien de transition. Le remplaçant a mal pris ce retour.
J'ai envie de te dire.
Et je pense que ça peut un peu diviser le vestiaire, ça aussi. Ouais, parce que certains peuvent partager l'avis de Castells, qui pensent qu'on lui a pas demandé son avis et que bon, on a laissé la place à quelqu'un qui a décidé de revenir comme
Castells
ça.
Castells est parti, me souffle le sel du bouche, carrément.
Donc, c'est un petit peu
le football d'aujourd'hui, tu sais, garçon.
Non, mais
c'est
parce
comme
que,
ça.
Parce
un jour, on est au top, le lendemain...
Non, mais aujourd'hui, le seul truc qui va faire que ça va marcher, c'est les résultats. Si tu gagnes des matchs, tout ça va tomber aux oubliettes et tu vas retrouver une dynamique. Les joueurs
ça
vont avoir envie
ça fait un moment
de...
quand même qu'on ne sent pas une grande et une franche unité au sein de cette équipe.
Parce que vous l'avez dit, Olivier, il y a beaucoup de...
Il y a des gros égos.
Il y a de très gros égos. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, à un moment donné, Garcia, il a laissé justement son gardien prendre la parole devant son groupe. Et puis il a donné le premier brassard. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura sur la longueur. Il a donné le brassard pour cette fenêtre à Lukaku. Alors que peut-être Courtois se disait je reviens en patron et je vais peut-être aussi avoir le brassard.
C'est,
bah, c'est pas comme ça.
Oui, mais c'est bien. Tant mieux.
Donc voilà, donc il y a ces histoires d'équilibre.
Ouais, oui.
Sur le plan technico-tactique, à voir.
Après, il a un problème peut-être à régler avec Kevin De Bruyne, qui est en grande difficulté cette année avec Manchester City, un peu à l'image de toute l'équipe. Le leader technique, c'est complètement évanoui.
On parlait beaucoup d'égos, il serait peut-être temps de les mettre de côté. Il n'y a plus les moyens d'avoir
soit de mettre les égos de côté, soit éventuellement, peut-être, c'est radical, mais mettre certains joueurs de côté aussi. Parce que c'est une équipe qui est supposée jouer les premiers rôles. Si vous laissez des joueurs très en dessous de leur niveau titulaire tout le temps, quel message vous envoyez aux jeunes qui poussent derrière? Donc là aussi, à mon avis, il aura des décisions à prendre. Mais je pense que ce n'est pas sur ces matchs-là qu'on va vraiment savoir où il en est, parce que ça me paraît être à leur portée, ce qui les attend.
Oui, c'est vrai que l'Ukraine, si loin de ses bases...
Ouais, l'Ukraine, elle est bonne à prendre, malheureusement, vu les circonstances.
Mais il y a beaucoup de solistes. Il y a beaucoup trop de solistes dans cette équipe.
Ça va être son boulot.
C'est à lui d'en faire un orchestre,
Lyon,
que ça joue en harmonie. Hein. Et pour le coup, quand je regardais avant l'émission, je me faisais une petite liste des gars qui sont potentiellement ceux qui débuteraient demain. Enfin non, qu'est-ce que je dis demain?
Ça joue en ce moment.
C'est en ce moment. Mais c'est tous des grands, des joueurs importants.
Bien sûr.
À eux maintenant de s'accorder.
Qui ne sont juste peut-être plus qu'ils ont été.
Ah, ils ont vieilli, ça, pour certains, c'est clair.
Et il faut qu'ils le comprennent.
Il y en a qui sont bons cette année, de Kettlar.
De Kettlar, oui, absolument.
On va s'arrêter là, messieurs, pour ces soirs de première. Donc Thomas Tuchel demain avec l'Angleterre, Rudy Garcia aujourd'hui avec la Belgique. Et avant de parler de foot en Afrique, la désormais traditionnelle pause musicale dans Radio Foot sur RFI, on va faire ça à la Voyou. C'est le nom de scène de Thibaut Van Hooland, qui vient de sortir un album de reprise d'Henri Salvador, malgache d'origine, hein, on se souvient d'Henri Salvador, tiens, tiens. Voyou nous chante sa version de Syracuse qu'on aimerait t'en voir.
Syracuse, l'île de Pâques-Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent.
Syracuse, on aimerait tant voir Syracuse, hein, surtout quand il fait beau comme ça.
Il faut
ça.
Aller en Sicile.
Adapté par Voyou, donc, et c'était le choix musical de Mathieu De Gueldre. On file en Afrique, du côté de la Grande Île. Du côté de la Grande Île, donc, pourquoi ça? Ben parce que Madagascar n'en finit plus de, oui. plus de flamber dans ses... Qualification à la Coupe du Monde 2026, c'était la première de Corentin Martins. En plus, hier, le nouveau sélectionneur des Baréas qui sont allés s'imposer, alors j'allais dire en Centrafrique, ça n'est pas en Centrafrique que ça s'est joué.
Voilà.
C'était au Maroc.
Au Maroc,
ouais, ouais,
terre d'accueil, Casa.
Larbizaouli.
4 buts à 1 en faveur des Baréas, qui sont donc premiers du groupe I.
Qui était pourtant mené.
Oui.
Qui était mené à 0 et qui en ont planté 4 derrière. Les voilà nantis de 10 points, c'est-à-dire 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Alors, bien sûr, les Comores, juste derrière à un point qui joue aujourd'hui, ce jeudi, au moment où on se parle, ça ne sera pas fini.
Là, c'est à Berkane.
Face au Mali, ouais, on en a parlé hier. Et puis, il y a Ghana, Tchad. Ghana, Comores peuvent doubler, bien sûr, Madagascar à la faveur de leurs résultats. Il vaudrait mieux que les Maliens aussi en fassent un résultat, parce que sinon, ça leur coûterait cher. On a dit tout ça. Arrêtons-nous un petit peu sur ces malgaches. On écoute Corentin Martins. Et après, on dit quelques mots, bien sûr, avec Eric Rambé-Sandratana, notamment.
Les joueurs ont réalisé un gros match. Un but contre nous, 10 minutes de jeu. Ils n'ont pas paniqué, ils sont restés calmes. On a fait un gros match sur le plan mental. Dans les jours qui viennent, on va essayer de bien récupérer parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et être prêt pour lundi, ça sera un autre match, c'est sûr.
Ce sera un autre match. Chaque jour suffit sa peine. Corentin Martins, Madagascar, une première. On en a parlé de première dans toute la première partie de cette émission. Celle-là, elle est 100% réussie et ça vous fait évidemment plaisir. Eric,
ouais,
Rabé Sandratana.
Ce qui me fait plaisir aussi, c'est la manière. Quand tu vois la prestation des Malgaches, c'est un match complet, en fait. C'est-à-dire que du début à la fin, même s'ils prennent ce but et qu'ils perdent 1-0, en vérité, c'est contre le cours du jeu. Et derrière, ils égalisent très vite, ils marquent le deuxième très vite. Et puis après, ils prennent...
Ravelosson.
Ravelosson, le doublé de Ravelosson. Et après ils ont pris complètement la mesure du match et ils ont très, très bien géré ce match. Donc franchement, c'était très encourageant comme prestation. Je suis content pour Corentin, parce que Corentin, c'est un super mec. Corentin Martins.
Bien
Donc
sûr.
Du coup, voilà, je souhaite surtout de
réussir. On lui souhaite de faire aussi bien avec Madagascar que ce qu'il avait fait avec la Mauritanie.
Non, mais franchement, ouais, franchement, c'est un super mec et ils ont de la chance de l'avoir.
Ex-milieu emblématique de la JOCR, notamment ex-sélectionneur de la Mauritanie et de la Libye. Oui, ça fait plaisir de voir les Malgaches. Dans ce groupe-là, dans ces éliminatoires, au moment où on se parle, on est... pas tout à fait à la mi-course, mais quand on voit des équipes comme Madagascar ou les Comores, c'est le même groupe malheureusement, mais on rêverait, on se dirait que le foot serait beau, ce football circus, si on voyait débarquer les Comores et Madagascar.
Bah, on pourrait voir débarquer Tahiti, donc pourquoi pas les Comores ou
magique,
Madagascar.
Hein. Imaginez Madagascar ou les Comores, mais rien que le fait, Franck, de les voir à ce point dans la course, ça montre quand même que voilà, il y a un nivellement.
Oui, d'une part. Oui, d'une part, et d'autre part aussi que le travail qui avait été fait par Gilles Hugon et Roro avant l'arrivée de Corentin n'était pas si mauvais que ça, puisqu'ils avaient travaillé aussi hein, sur cette campagne de Coupe du Monde. Je me souviens de matchs que j'ai commentés de Madagascar contre la Tunisie en particulier, et je crois aussi contre les Comores, donc, mais ça c'était en éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, Cannes.
Honnêtement, il y avait du contenu. Il y avait du contenu, il y avait un manque, il y avait une stérilité, il y avait un problème d'efficacité, mais les garçons qui ont été alignés, je pense à Caddy qui a été bon, je pense à Lapoussin, je pense à Arnaud, et puis Ryan Ravelosson.
Exceptionnel.
Ben oui, mais ils étaient...
Un couteau suisse, oui. D'ailleurs ils jouent en Suisse
oui.
Maintenant.
Maintenant, ouais, Berne. Ils ont fait déjà de belles choses avant, mais il n'y avait pas cette efficacité.
Ouais, exactement.
Et là, ils l'ont trouvé, ils ont profité, ils ont eu raison. Ils ont su profiter de la faiblesse, c'est malheureux de le dire, hein, des forces du bas
ouais, parce que est-ce qu'on peut dire un mot quand même? Ces deux équipes s'étaient rencontrées il y a exactement 2 ans en éliminatoire de la CAN, en double confrontation.
C'était pas la même chose.
C'était pas la même chose et on voit qu'il y a une Centrafrique avec Raoul Savoie et une Centrafrique sans ouais. être désobligeant pour le
raison.
Staff actuel. À l'époque, ouais. La Centrafrique avait gagné à Madagascar 3-0. Et avait battu Madagascar ensuite sur terrain neutre 2-0.
Le chemin de il y a à peine 2 ans.
On va dire que les
deux équipes se sont croisées dans l'ascenseur.
Les courbes se sont croisées et malheureusement pour la Centrafrique, pas dans le bon sens. Voilà, j'en dis pas plus.
Heureusement pour Mana, encore
les choix parfois des dirigeants ne sont pas les bons.
Bah, on le voit avec Rigobert Song, rappointé par le ministère, oui. Le staff des fauves du Bazoubangui maintenu par la fédération. Enfin bref,
non, mais Raoul Savoie qui avait été viré suite à 2 lourdes défaites, c'est vrai, contre le Maroc.
À mon avis,
c'est pas la dernière équipe qui va subir des lourdes défaites contre le Maroc, surtout qu'elle ne peut pas jouer chez elle. Voilà, peut-être qu'il aurait fallu un peu s'asseoir, prendre un peu de recul et réfléchir, mais ils ne l'ont pas fait.
Bon, en tout cas, hier, il n'y avait pas de match. Vraiment, non. Madagascar était
le gros.
Ils étaient sur 2 planètes différentes.
Et tu as raison quand tu dis en termes d'efficacité, parce que ça a été longtemps le problème de Madagascar. Vraiment. J'espère que ça les a lancés, qu'il va y avoir de la régularité.
Mais c'était,
non, mais c'est des beaux buts en plus. Sur des centres, voilà, les joueurs qui sont en mouvement, ça a l'air des banalités, mais. Ça a manqué énormément au football malgache et c'est pour ça que je suis content d'entendre ça.
Et tu vois l'action du 4e qui est tout au bout du match, ouais, le but de la Laina.
Bien sûr, t'as vu
l'action, ce long ballon comme ça, le renversement de Siva pour. Mais c'est génial.
C'est
et
beau.
Ça, on sait.
C'est
ça qui
fait du taf, quoi, aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est pas le fait du hasard.
Exactement.
Ce type de
but, c'est un 2 contre 2 qu'ils ont su très bien jouer. Et moi, je dis attention, Madagascar, il s'est.
Mais
voilà,
vous savez, dans un groupe où vous avez le Ghana et le Mali, vous vous dites forcément au tirage au sort, bon ben bah, Ghana-Mali...
C'est l'un des deux qui sera premier.
C'est l'un des deux. Bah, les Ghanéens, en fait, alors, les Ghanéens sont encore dans le coup, ils sont tellement revanchards de leur échec magistral.
C'est terrible.
En qualif pour la CAN. Les Ghanéens jouent le Tchad demain vendredi à 19h temps universel.
Ça devrait bien se passer parce que malheureusement le Tchad... Il n'y a plus beaucoup
d'expats.
Enfin, c'est une équipe très affaiblie.
4 matchs, 4 défaites depuis le début de cette campagne pour les Tchadiens malheureusement.
Ça
veut dire que les Ghanéens potentiellement devraient repasser devant
logiquement
demain, mais avec 2 points d'avance après 5 journées
tout reste possible
possible et encore une fois Comores-Mali mais c'est vrai que c'est un groupe bien plus disputé qu'on ne l'aurait imaginé
c'est ce qu'on attend
et c'est génial on verra ce que donne
il est plus disputé que le groupe de la Tunisie disons
et ben la Tunisie vous me tendez la perche justement
je savais
on l'a casé là parce que c'est vrai que c'était un match d'hier les Tunisiens ils sont quasiment déjà aux États-Unis dans le groupe H victoire 1-0 face au Liberia.
C'était
hier, au Liberia, 5 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, ils ont 13 points. Déjà 5 d'avance sur la Namibie qui n'a pas encore joué. Mais enfin, c'est très, très bien engagé pour la Tunisie dans un groupe où, il faut bien le reconnaître, ils sont un petit peu seuls au monde. Namibie, Libéria, Malawi, je ne veux pas manquer de respect.
Guinée équatoriale,
Sao Tomé, principe.
Encore faut-il se simplifier la tâche. Et c'est ce qu'ils ont bien fait hier, puisque un match à l'extérieur, ils ont mis d'emblée une grosse pression sur le but du Libéria. En attaquant en nombre, en allongeant et en ne refusant pas le défi physique. Et le premier but, c'est une attaque où ils attaquent à 5 ou 6 avec une récupération
et haute d'Abdi. Ils insistent.
Ils insistent. Un 1-2 avec Mejbri, un centre en retrait et Mastouri, meilleur buteur du championnat de Tunisie, troisième sélection, premier but. Il a cadré 3 fois sur 4 possibilités lors du match d'hier. Donc c'est un joueur qui a fait une bonne entrée dans cette équipe.
La Tunisie qui reste une valeur très très sûre bien sûr du football continental, on leur reproche un peu d'avoir à la canne le plafond de verre des quarts de finale.
Mais il y a un retour de forme quand même, hein, parce que la fin des éliminatoires
n'était pas brillant dans le jeu.
C'était vraiment pas bon.
Éliminatoire Cannes également, ils avaient été devancés par les Comores, faut pas l'oublier.
Donc une victoire au Libéria, comme l'a précisé Pat, à Monrovia, c'est toujours bon à prendre. C'est pas si simple
non,
que ça.
Non, c'est pas si simple.
Et ça donne encore une fois un bon petit matelas en tête de ce groupe H. Bien sûr, on revient sur le dernier match qui s'est joué hier et pas n'importe lequel, parce que là, on est vraiment. On se demande si on n'est pas dans le retour de la galère. Ça va pas calmer la guéguerre, Brice Eto'o, en cours depuis des mois et des mois. On aurait presque envie de dire des siècles, tellement cet épisode après épisode, c'est un soap opéra. Ça pourrait être un feuilleton à l'américaine. Le Cameroun, donc, qui est allé faire un résultat. Exceptionnel, puisque c'est quasiment du jamais vu. Un 0-0 à Nels Preut en Afrique du Sud face à Eswatini, l'ex-Swaziland.
C'est le seul qui n'est pas gagné dans le groupe.
Eswatini, 4 défaites jusqu'ici en 4 matchs.
Ils ont ouvert leur compteur
à chaque fois.
En fait.
Courtes. Mais là, tout d'un coup, ils marquent un point. Qu'est-ce que les Camerounais sont allés faire?
Alors, justement,
ils ont galéré pour y aller, on le sait, mais cette excuse-là, elle ne tient pas face à une équipe comme celle-là.
Ils n'ont pas su faire ce que la Tunisie a su faire, c'est-à-dire marquer vite pour s'assurer un match un peu plus tranquille. Au contraire, ils n'ont pas su mettre de rythme. Ils ont joué, c'était très monorythme, c'était très... ça manquait de génie, de créativité, de précision aussi, parce qu'ils ont eu quand même des occasions nettes. Et un joueur comme Aboubakar, par exemple, a été inhabituellement maladroit sur ce match. Il aurait pu...
Souviens-toi du match à la maison contre le Zimbabwe. Déjà, il en avait loupé des belles.
Et on voit que c'est plus compliqué qu'il y a quelques années pour lui, hein. Et finalement, ils se sont crispés, ils ont essayé, mais c'est pas passé. Il faut souligner aussi, moi je trouve, la qualité de la prestation collective de l'Eswatini, dirigé par Zdravko Logaruzic, un sélectionneur qui a beaucoup bourlingué, mais qui fait généralement du bon travail, qu'il avait fait avec le Zimbabwe notamment. Et là, j'ai trouvé des bonnes sorties de balles, un jeu assez raisonné, une capacité à subir, mais sans être trop bas. En faisant des lignes, mais sans trop se replier. Donc, un bon match de cette équipe.
Et le Cameroun qui n'a pas su. Pour les Camerounais.
Malheureusement, on a vu.
Ça peut coûter cher.
Ça peut coûter cher. Bon, si la Libye ne gagne pas son
match,
il joue
l'Angola.
C'est le premier match d'Aliou Cissé, ça sera pas simple. Si la Libye ne gagne pas, ça sera un moindre mal pour le Cameroun. Si la Libye gagne, le prochain match Cameroun-Libye va être un match à 6 points, va être un match
décisif, tu peux le dire.
Décisif potentiellement pour la suite. Donc ils se sont peut-être mis un peu dans le rouge là, les Camerounais.
Le Cameroun puisse être en difficulté dans un groupe où il y a la Libye, le Cap-Vert, alors l'Angola, certes.
Le Cap-Vert, c'est
Il Maurice et Eswatini.
Cap-Vert quand même.
Cap-Vert éliminé de la CAN.
Le Cameroun n'est définitivement plus un grand Afrique.
C'est-à-dire que le Cameroun traverse tellement de problèmes en dehors du terrain
que la
concentration elle est perdue et que finalement les prestations sportives forcément sont dépendantes de tout ce qui se passe autour et je pense que les mecs en ont marre vraiment de cette gestion de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui la vérité elle est là en fait.
Il y a trop d'interférences autour de cette équipe.
Bien sûr.
Allez, on avance. Oui, vous vouliez dire quelque chose quand même. Un dernier mot sur les matchs d'hier, Franck.
Non, pas sur les matchs d'hier, mais sur celui que vous venez d'aborder.
Oui.
Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Pat, mais le petit Dani Namaso, c'est...
Très bonne entrée.
C'est très bonne
entrée. Il aurait pu, dès ses premiers ballons, faire une passe D pour Aboubakar.
Il devrait débuter. Il devrait débuter le prochain.
Il a foiré totalement sa reprise, mais effectivement, je suis d'accord.
C'est le point positif,
joueur
je trouve.
Joueur anglo-camerounais du FC Porto.
Frère rugbyman, mais lui, joueur de foot.
Ouais. Effectivement.
Marc Brice nous disait après le tirage au sort de la CAN, je n'ai peur de personne quand on lui parlait de la Côte d'Ivoire. Bah,
excepté mon équipe. Il a oublié de dire excepté mon équipe.
Oui, voilà, finalement. Ou, il aurait peut-être dû dire Eswatini aussi, finalement. On enchaîne avec les matchs de demain. On avait évoqué Ghana Tchad tout à l'heure. Demain, c'est le Sénégal, par exemple, qui joue. Le Sénégal qui va jouer.
Samedi, non, le Sénégal?
Alors, c'est samedi, pardon, ouais, excusez-moi. Mais dans ce groupe-là, pardon. Samedi, c'est le groupe B, en fait. Il y a deux matchs qui nous intéressent. L'un samedi, effectivement, 19h à Béninas, c'est le Sénégal qui va affronter le Soudan. Le Soudan qui est en tête du groupe B au moment où l'on se parle, avec 10 points. Les Sénégalais sont à 2 longueurs. Et la République démocratique du Congo, 3e, à 3 longueurs. Là encore, ça, c'est un groupe qui va être disputé sans doute jusqu'au bout. La République démocratique du Congo qui joue, donc là, pour le coup, bien vendredi, 16h, temps universel à Kinshasa, et qui accueille le Soudan du Sud. Il faudra mieux gagner pour Sébastien Desabre, sous peine de voir le rêve de Coupe du Monde s'envoler, parce qu'encore une fois, le Soudan et le Sénégal sont promis à être de sérieux clients.
Il y a, je pense, une dynamique qui est... Enfin, ça s'est enrayé, la machine, côté soudanais. Ça s'est vraiment enrayé. Les clubs, déjà, les grands clubs ne sont plus aussi performants en ce moment. Les bons joueurs ne sont plus aussi performants. Ils ont été limites. Ils ont terminé, mais vraiment très limites, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations quand ils se sont qualifiés. Le Sénégal, le sélectionneur Papture, il arrive avec une méthodologie, avec des idées. C'est un pragmatique. Moi, je pense qu'il voilà, il sait ce qu'il va faire. Il est là pour prendre les points. Et effectivement,
il faut que le Sénégal prenne les points.
Vous avez raison.
Comme le rappelle Sadio, on a un Sénégal, un RDC Sénégal qui va arriver, qui va arriver très cher à Kinshasa.
Et effectivement, la République démocratique du Congo, qui nous avait tant plu il y a un peu plus d'un an en arrière, la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont légèrement à la traîne, mais c'est à cause de cette défaite. En Libye, voilà, au bout du match, c'était pas forcément mérité pour le Soudan, mais voilà, ils ont réussi les hold-up, et depuis, bah, la RDC court après. C'est la cruauté du truc. Hein.
Sauf que le Soudan, sur ce match-là, si tu fais un match nul, bah, finalement, tu protèges un petit peu ton parcours et t'as moins d'obligations, j'ai envie de te dire, de gagner contre le Sénégal que de. Tu peux préserver cette avance que tu as au classement avec juste un match nul et ça met encore plus en difficulté les autres.
Oui, après, il y a match nul entre Soudan et Sénégal, ça permettra aussi à la République
de faire le bon.
Si elle bat le Soudan du Sud, de.
Donc il y a moins de pression sur le Soudan que.
C'est dire ce groupe B comme il est passionnant.
Ouais, après, je pense que le Sénégal avec Thio, avec les nouveaux joueurs, parce que là, en plus, vu le nombre d'absents qu'il a dans son groupe, il a été obligé de faire appel à de nouveaux joueurs comme Hassan Diao, notamment. Je pense que ça peut aussi créer une dynamique en interne. J'ai confiance dans le Sénégal. Je pense que la page est tournée avec la génération qui a gagné la CAN en 2022. Ils savent que maintenant, ils doivent compter sur des nouveaux, des jeunes talents, et je pense qu'il va être il va se servir de ces matchs pour commencer vraiment à façonner l'équipe à son idée, en fait.
On verra ça samedi, on rappelle, le Soudan-Sénégal à Bénina, le RDC Soudan du Sud. En revanche, c'est dès demain 16h temps universel. Messieurs, je voudrais qu'on écoute Meshack Elia. Que Ndiaye Cissamba a eu la chance de rencontrer la semaine dernière. Meshack Elia, l'attaquant de Nantes, Ligue 1 française. Et puisque l'on parle de sélection, d'amour du maillot et d'ambition, bah voilà, on vous a regroupé tout ça. C'est ça, Liu avec l'aide de Pierre-Olivier Guérin qui a travaillé sur cette interview. Je vous invite à aller lire sur RFI.fr l'excellent papier de Ndiaye Cissamba après cette interview. Quand on parle d'amour du maillot, d'ambition de Coupe du Monde, d'ambition CAN, on écoute Meshack Elia.
Depuis que j'étais petit jusqu'à aujourd'hui, on me disait souvent que les Congos Zaïre avaient joué la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, étant que joueur actuel qui est sur place à l'équipe nationale, je souhaite qu'on puisse aller à la Coupe du Monde. On va tout faire pour qu'on puisse être qualifié parmi les deux premiers dans notre groupe. Ça sera dommage si on n'est pas qualifié GPD. On est focus, notre ambition, il est là. Il faut qu'on soit qualifié. Et même les staffs techniques du Léopard actuel, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi on est là. L'ambition pour la prochaine CAN, c'est d'abord arriver à la demi-finale. À partir de la demi-finale, c'est là que je pense qu'on aura encore d'autres visions pour, pourquoi pas, comme vous avez dit, d'aller à la finale. Ça représente toute l'équipe nationale. Dès qu'il y a le match, tout le peuple est attendu pour regarder le match. L'équipe nationale, ça représente pas seulement le foot et les drapeaux là qu'on porte. C'est notre cœur, quoi, je peux dire.
Moi, j'aime bien entendre ces dernières phrases d'un joueur de foot. Et là, c'est Meshack Elia, parce que vous sentez tout l'amour du maillot. Alors, il sait qu'il est congolais, il sait combien ce sport est religion, bien sûr, en RDC, mais comme il l'est sur tout le continent. Et il est presque émouvant dans ses dernières phrases et de voir ce rapport au maillot et cette envie tellement importante de voir. 50 ans après, c'est ça, si c'était 2024, plus de 50 ans après, 50 ans, la RDC
oui,
en Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai, mais Meshack Elia, tout de même, il a déjà gagné un trophée avec les Léopards, puisqu'il a, il était un des joueurs leaders de l'équipe du Shan. Il sait ce que c'est, hein. il a l'habitude du haut niveau, il a joué la Ligue des Champions avec les Young Boys, donc moi je pense que oui, c'est rafraîchissant à entendre, mais c'est un joueur quand même qui sait où il va, hein. C'est pas l'enthousiasme du jeune qui arrive, voilà, qui déboule dans l'équipe. Quoi.
On espère pour lui et pour tout le peuple
congolais. Dix ans après, pour lui, tu le disais, qui a levé le châne, le trophée du châne, 10 ans après, faire une Coupe du Monde, ce serait merveilleux.
Mais c'est le mal que l'on souhaite au peuple congolais qui en a bien besoin. On les embrasse, on les salue bien fort parce qu'on sait qu'ils sont aussi à l'écoute et en nombre de Radio Foot. Et voir la RDC à la Coupe du Monde.
Eh ben, écoute-moi bien, juste pour parler de la RDC vite fait, je passais en bus quand on a joué avec Madagascar contre la RDC. Et j'ai vu l'affiche de RFI et de... Non, mais c'était extraordinaire. J'ai envoyé la photo à Annie au moment où je passais devant. C'était extraordinaire. J'ai dit, mais c'est pas possible.
Bon, dans ce groupe-là, on n'a rien contre le Soudan. Et évidemment, contre le Sénégal, le Togo et tout ça. Que le meilleur aille à la Coupe du Monde. On enchaîne avec le groupe juste après. Le groupe C, avec demain à 16h à Kigali, un Rwanda-Nigeria qui vaut très très cher pour un homme notamment, Eric Schell. Ce sera sa première aussi. Eric Schell, décidément. Exact. On a parlé de Tourelle, de Garcia, on a parlé de Corentin Martins. Eric Schell doit impérativement réussir cette première. Le Nigeria est cinquième de ce groupe C, déjà à 4 points du Rwanda, étonnant leader.
Oui, c'est qui tout double là, pour Eric Schell.
Il y a que 4 points d'écart, mais quand même.
On a lu ses déclarations, il était très exigeant avec ses joueurs, il a martelé ses exigences. Il sait très bien, à titre personnel, je me rappelle quand on l'a interrogé sur le tirage au sort de la CAN, il a laissé entendre que bon, c'est bien de l'interroger, mais peut-être qu'il ne serait plus là, parce qu'il sait très bien que s'il ne redresse pas la barre dans ses matchs éliminatoires, il ne fera pas long feu sur son banc. Donc ça, il le sait, c'est une opération commando pour Eric Schell. Là. Il a le matos, comme on dit, pour le faire, parce que la ligne d'attaque du Nigeria, il y en a peut-être pas 5 ou 6 des meilleurs dans le monde entier. Le reste de l'équipe, c'est autre chose. Donc, on va voir maintenant un match piège contre une équipe un peu en regain de confiance, alors que c'était un peu un des parents pauvres de cette région jusqu'à présent. Le Rwanda.
Oui, on ne peut pas dire que le football soit le sport roi au Rwanda. Remarquez, le cyclisme l'a été. On ne peut pas dire que ça le soit vraiment, même s'il y aura des championnats du monde
aussi, hein.
Oui.
En septembre prochain, les premiers en Afrique. Laissez-moi terminer mes phrases quand je parle d'autre chose que de football. On a dit que le Rwanda était en tête et accueillerait donc des Nigérians en mauvaise posture. Un mot aussi du tenant du titre de la CAN qui joue demain, la Côte d'Ivoire, 19h temps universel à Meknès, décidément le Maroc, terre d'accueil de tous ces matchs. La Côte d'Ivoire qui joue face au Burundi. On en parle quand même parce que le Burundi n'est jamais qu'à 3 points dans un groupe où il y a donc la Côte d'Ivoire à 10 points. Le Gabon est à une longueur.
Le Gabon qui reçoit les Seychelles, ouais, qui devrait prendre 3 points, logiquement.
Donc il faut battre le Burundi qui est là, qui a 7 points et qui se défend. 2 victoires.
Les Hirondelles.
un nul, une défaite pour les Burundais. Il ne faut pas se rater.
Non, il ne faut pas se rater. Il y a eu des petites piqûres de rappel lors des éliminatoires CAN avec des défaites un peu gênantes contre la Sierra Leone et la Zambie pour la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le groupe va s'en rappeler au moment d'affronter le Burundi et sera bien concentré. Il y a certains retours, notamment de Haller. Fofana n'est pas là. Je pense que c'est plutôt un accord avec le staff parce qu'ils savent bien qu'il doit regagner, retrouver le sommet de sa forme. Ouais. Il est un peu encore limite. Voilà, donc je pense que la Côte d'Ivoire devrait quand même, logiquement, ce serait une grosse surprise de ne pas l'avoir prendre 3 points contre le Burundi.
Oui, et puis prendre un peu d'espace, encore que le Gabon sera de toute façon, en cas de victoire de l'une et l'autre équipe, toujours un point derrière. Donc
le Gabon devra se méfier du Kenya lors de la 6e journée, parce que c'est une équipe, là aussi, qui a un nouveau sélectionneur, Benny McCarthy, qui cherche un peu à se reprendre, à se remettre dedans en vue de la prochaine CAN qu'ils accueilleront. Donc attention pour les Panthères là-bas.
Sur le prêt demain aussi, le Burkina Faso, 16h temps universel à El Jadida face à Djibouti. Bon, c'est pas l'adversaire du siècle, hein. Djibouti, un nul, trois défaites depuis le début. Le Burkina Faso, c'est pour qu'il reste dans la course. On sait que l'Égypte est un épouvantail. L'Égypte, trois victoires, un nul, donc largement en tête. Le Burkina Faso est déjà à 5 longueurs.
Pourquoi mais pas être meilleur deuxième?
Pourquoi pas, même si le parcours sera long, on le rappelle, avec les meilleurs deuxièmes, les quatre meilleurs deuxièmes, tournoi, un vainqueur qui ira disputer le barrage contre la zone AMSU.
C'est le chemin plus long.
Mais bon, voilà, les Burkinabés, on a envie qu'ils soient à la lutte jusqu'au bout, même si les pharaons ont quelques longueurs d'avance.
Ouais, là encore, ce sont des histoires de dynamique hein, pour toutes ces équipes. Il y a une dynamique égyptienne, quand bien même, moi, je reste très sceptique sur la façon dont ça joue. Ils ont quelques joueurs d'exception, mais ça fait pas encore deux, je dirais, de véritables prétendants. Voilà, il y a encore beaucoup de matchs, hein, beaucoup de matchs.
Un dernier mot sur les matchs de demain. On aura trois minutes pour évoquer DAZN. Est-ce que ça mérite plus? Pas sûr. les matchs de demain, c'est dans le groupe E et c'est le Maroc qui se déplace, alors qu'il se déplace au Niger, non pas vraiment,
non.
C'est à Oujda, mais ça sera 21h30 temps universel. Le Maroc, trois matchs, trois victoires. Alors on rappelle dans un groupe où le Congo Brazzaville depuis un mois et demi a été déclaré out
par la FIFA, oui.
Suspendu. Ouais. L'Érythrée
a fait déclarer forfait dès le début.
Exactement, donc il n'y a que quatre équipes. Le Niger, c'est parce que, avec leur président, le bon colonel-major Pelé, qui vient d'entrer au conseil de la FIFA et qui doit se sentir pousser des ailes. J'allais dire, s'il est à l'écoute, il y a un peu de chance, mais enfin, on ne sait jamais. Accueillir le Maroc, même si
non, je vais garder un petit œil sur Daniel Sosa, qui est un joueur d'origine ghanéenne, mais qui porte les couleurs du Niger, qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe. Oui. Mais je pense que le Niger, malheureusement pour les auditeurs, risque de ne pas faire le poids contre un Maroc
même
déterminé
si t'as un Marocain
à
sur
monter
le banc.
En puissance. Oui, Badouzaki, mais
voilà, ça
me
suffit
paraît pas suffisant.
Non, pour écorner les lions.
Ce qu'il faut, c'est éviter de se prendre une tôle, à mon avis. Ça doit être l'objectif.
Mais souviens-toi de cette équipe du MENA du Niger contre le Ghana, notamment.
Oui,
il y a quelques mois en arrière, qui a fait de belles choses. Donc, ils sont très accrocheurs.
Mais à mon avis, si vous jouez la fleur au fusil contre le Maroc, va être très compliqué.
On suivra ça, on vous a briefé les matchs de demain, on vous a parlé de ceux d'hier. Vous retrouverez demain pour le Café des Sports Eric Mamrut qui vous parlera des matchs du week-end évidemment et de ceux d'aujourd'hui. C'est ainsi fait, c'est la course à la Coupe du Monde. Allez, deux minutes pour parler de cette plateforme-là.
Il n'y a plus d'abonnés, c'est le numéro, c'est que vous avez demandé.
Une impasse avec nos diffuseurs. On a une situation, on vit effectivement depuis 2019 une situation compliquée avec nos diffuseurs. Je constate factuellement que depuis qu'on a fait ce choix de Mediapro de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu des différentes difficultés. On s'est aussi mis un boulet au pied un peu aussi avec ça. Et je peux pas vous faire d'autres commentaires.
Il n'y a plus d'abonnés, le numéro c'est que vous avez demandé.
J'aime bien. Ça me rappelle des souvenirs. Vous vous souvenez de cette phrase? Il n'y a plus d'abonnés au service que vous avez demandé. C'est-à-dire qu'il y en a à DAZN, mais très très loin du compte. 1,5 million d'abonnés d'ici au 1er décembre 2025.
Vous en avez un devant vous, là, Olivier.
C'est déjà pas mal. Bravo. Vous avez payé combien? 40 euros, 30
moi,
euros,
c'était encore 30.
Ou alors vous êtes allé chez Mac. Je peux pas dire le nom. Ou alors dans
une chaîne de fast-food américaine d'origine écossaise.
Et vous avez tourné la roue et vous avez gagné l'abonnement gratuit.
Vous
êtes étudiant et vous l'avez à 10 euros?
Je suis un cochon de payant à 30 euros et je trouve que c'est la manière de faire de DAZN est en dépit du bon sens. Normalement, on doit commencer par faire des tarifs très attractifs pour attirer du monde et éventuellement ensuite peut-être un peu augmenter. Là, ils ont fait tout le contraire, donc forcément, ça ne marche pas.
Donc, tu fais partie des 500 000.
Oui,
non, mais là, 500 000 pour le moment, hein, et un abonnement tombé de 40 à peine 20 euros par mois pour voir la Ligue 1.
La gestion, elle a été à l'envers, en fait. Et puis aujourd'hui, tu pédales parce que t'as pris le problème à l'envers et maintenant, tu n'arrives pas à trouver la solution.
Ça sent le divorce avec la Ligue.
On aura teasé pour un prochain sujet parce que ça peut devenir un feuilleton. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous n'oubliez pas les cartons demain pour le Café des Sports d'Eric Mamrut. Merci Saliou, merci Mathieu, merci à tous et à Maestro Salerno. No.